Salut et bienvenue sur Ta Face B, le podcast qui nous fait découvrir chaque semaine la face cachée d'entrepreneurs et d'exécutifs dans le monde du commerce de détail et des technologies. Recommandations, passions et histoires personnelles, ils partagent tout ce qui les anime à côté de leur job. Alors très bonne écoute de ce nouvel épisode et à bientôt. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur ce nouvel épisode de Ta Face B. J'ai le plaisir d'accueillir Edouard aujourd'hui. Salut Edouard.
Salut.
Alors Edouard, tu connais le principe de ce podcast, Ta Face B. Tu vas pouvoir nous en dire plus sur ce qui t'anime, tes passions, des histoires personnelles et autres. Et comme tu le sais, tu vas démarrer par Ta Face A tout d'abord, donc ta compagnie et ton rôle dans cette compagnie en une trentaine de secondes.
C'est parti. Je suis président et cofondateur de Kiwiz. On est une entreprise qui offre des services d'inspection automobile. On a parmi nos clients des professionnels pour qui on va mettre en place une plateforme clé en main qui va prendre en charge de la réservation jusqu'à la génération de rapports d'inspection détaillés. Ouais. Et cette plateforme, elle est connectée à un réseau de mécaniciens certifiés et qualifiés. Donc, ce sont des professionnels dans l'industrie qui vont justement effectuer ces mandats d'inspection à travers le Canada.
Ok, donc on peut faire le parallèle avec les inspections qui sont faites quand tu achètes une maison, en fait, c'est un peu le même principe. Tu fais appel à des experts et puis ils vont venir effectivement vérifier, inspecter ta maison avant ton achat pour s'assurer effectivement qu'il n'y ait pas de gros problèmes majeurs, on va dire.
Exactement. Et l'automobile est la deuxième plus grosse dépense d'un ménage après le logement. Donc finalement, c'est une très bonne comparaison.
Super. Donc kiwiz.ca pour les personnes et les auditeurs auditrices qui veulent en savoir plus. Parfait. Et bien écoute Edouard, on va basculer maintenant sur ta face B et on va démarrer par le sport. On est en hiver là au moment où on enregistre, encore dans l'hiver, même si un hiver un peu plus doux que la normale on va dire. Mais c'est quoi les sports que tu pratiques hiver comme été? C'est quoi un peu qui t'anime?
Alors j'ai quand même des sports différents, je dirais, dépendamment des saisons. L'hiver, on est sur le ski de fond, ski alpin, snowboard. Et pour ce qui est printemps, été, automne, davantage course à pied, vélo. Okay. Et l'objectif de commencer la natation aussi, enfin recommencer, je dirais, après quelques tentatives qui ont échoué.
Ok, donc un triathlon aussi, parce que là, tu mentionnes la course à pied, le vélo, la natation. Est-ce qu'un triathlon serait dans tes objectifs?
Exact. Je me suis inscrit au triathlon de Tremblant. J'aime bien me donner des défis comme ça. Et j'ai fait mon troisième semi-marathon l'an passé en course à pied. Et j'étais pas forcément attiré vers le défi du marathon, plutôt diversifier les sports. J'ai découvert le vélo de course, ce qui est vraiment, vraiment une très belle découverte. J'en avais jamais fait avant l'an passé. Et la natation, je me dis, bon, allez, on va essayer d'ajouter ça.
Ok, bah écoute, c'est noté, donc on suivra ton premier triathlon donc à Tremblant. C'est quand? C'est plutôt fin d'année, septembre? Je ne sais plus exactement la date.
Je crois que c'est en juin, ça arrive assez
vite. En juin, ok. Donc plutôt que prévu, ouais.
Exact, il y aurait un doute entre juin et septembre. Donc voilà, je n'ai pas commencé l'entraînement, en tout cas, c'est ce que ça veut dire.
Super, bon bah écoute, va falloir y aller, ça c'est sûr. Et puis triathlon, va falloir manger aussi. Alors justement, c'est quoi un peu ton plat culte, ton plat fétiche?
Oh, c'est tellement cliché pour un Français. J'ai mis la raclette. Mais honnêtement, c'est la vérité. Raclette, charcuterie, c'est le plat fétiche.
Ouais. Bah, écoute, hein, je ne peux qu'adhérer aussi à ce choix de plat en l'occurrence. Je pense qu'on va continuer dans le franco-français avec ton film culte.
Ah oui. Puis ça continue aussi avec la suite, mais c'est Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. C'est un film qui m'a énormément marqué, plus pour le côté la génération, les acteurs. C'était Jamel Comedy Club, début du stand-up. J'aime beaucoup le côté humour, comédien, comédie. Donc c'était un film culte et reculte.
Ouais, et puis copié mais jamais égalé en l'occurrence. Hein. Tout ce qui est venu après en termes d'Astérix, même le dernier de Guillaume Canet a essayé de reprendre un peu certains traits, certains aspects humoristiques de celui de Chabat, mais effectivement c'est compliqué d'arriver à la cheville de Chabat. Et série TV, effectivement tu le disais, on reste dans le francophone, le français.
Kaamelott, et là c'est plus un culte, je pense que je pourrais réciter absolument tous les épisodes, mais sans exception, je l'ai vu, revu, je m'endors avec en fait quasiment tout le temps. J'ai pris l'habitude, peut-être mauvaise habitude, mais de m'endormir avec un fond audio, et c'est vraiment Kaamelott. J'aime l'humour décalé, et je trouve qu'on peut faire même des liens où finalement on a... le roi qui se retrouve avec plein de personnes qui sont censées l'aider, mais qui lui apportent uniquement des problèmes. Et toute la gestion autour de... Il ne peut pas être seul, il a besoin d'être accompagné, donc il doit faire face à ces individus, à ces problèmes. Donc, j'aime ça.
Et pour toi, le film était à la hauteur de la série, justement ? Tu es dans la bonne continuité ? Parce qu'il y a eu plusieurs avis en fait, sur ce film-là, hein, par rapport aux adeptes fans de la série TV. Il y en a qui n'ont pas aimé, puis d'autres qui ont dit « effectivement, c'était fidèle ». C'est quoi ton point de vue ?
Je vais pas souvent au cinéma, mais j'y suis quand même allé pour la sortie. J'ai trouvé ça un peu décevant en tant que passionné, parce que j'ai même lu les bandes dessinées Kaamelott, qui sont la suite finalement de la série. Ceci étant dit, à la différence des BD qui apportent un nouvel univers. Ou même de la série qui a son propre univers qui devient de plus en plus sombre au fur et à mesure des livres, le film c'était très grand public, donc je trouve que c'était pas forcément destiné aux passionnés, aux adeptes de Kaamelott, c'était plus pour aller chercher le grand public, et donc on va trouver quelques incohérences par rapport à ce qui peut être compris dans la série, donc c'est peut-être ça qui m'a mitigé. Si on dit avoir du nouveau contenu Kaamelott, je dis oui, donc Donc, c'était quand même bien.
Donc si Alexandre Astier écoute le podcast, j'espère qu'il va prendre en compte ton feedback là-dessus. Puis s'il veut faire inspecter sa prochaine future voiture, il sait aussi où aller. On va faire d'une pierre deux coups.
Exactement, merci pour ça.
On va passer côté musique, Edouard. La musique, la chanson culte ou l'artiste culte, c'est quoi ?
Sky and Sand de Paul Kalkbrenner. Ouais. Ouais, définitivement, tout l'univers qu'il y a autour, même Fritz, le frère de Paul. Quand j'étais au lycée, donc il y a eu environ 10 ans, j'étais passionné plus par tout ce qui était minimal, pas forcément, je dirais, la grosse techno, mais plus des musiques minimales où on allait capter des sons dans la rue, dans un environnement externe pour en faire une musique. Et cette musique en particulier m'a beaucoup marqué. Il y avait aussi, c'était tout un univers. Peut-être que ça déborde plus que de la musique. Il y avait aussi un film de Paul Kalkbrenner, justement, sur comment il a sorti son album. Artiste un peu qui a de la. Où je dirais que son ennemi principal, c'est lui-même. Ça m'a marqué. Ça continue de me marquer. C'est des musiques que j'écoute encore aujourd'hui.
Ok, mais écoute, je connais pas du tout, en toute transparence, donc je vais aller jeter une oreille après pour vraiment découvrir. Tu donnes envie, en tout cas, un univers un peu large qui va même au-delà de la musique, comme tu le dis. Donc intéressant. Le livre, c'est quoi le livre que tu recommandes qui a l'air quand même étroitement lié à ta face A ?
Effectivement, bien que ça ouvre aussi sur la phase B. Je vais essayer de faire des liens plutôt là-dessus, mais déjà, je tiens à le dire en toute transparence, je ne suis pas un grand lecteur, davantage livres audio ou conférences. Scaling Up de Vern Harnish, qui est un film sur comment une entreprise peut passer à l'étape supérieure, quel que soit son stade d'avancement, qu'on soit à 10 000 de revenus mensuels ou 1 million. J'ai lu le livre. Il y a beaucoup de concepts qui sont intéressants, surtout One Thing, le fait d'être concentré sur une seule chose. Et donc ça, on peut faire des liens, je trouve, avec absolument tout. C'est que si on a trois objectifs, au lieu de travailler trois simultanément, on va vraiment en travailler un, puis le second, puis le troisième. Et si on est en équipe, idem, emmener toute l'équipe à travailler sur un seul objectif avant de passer au suivant. Et c'est un livre où j'ai poussé la chose un petit peu plus loin en décembre dernier. J'ai eu l'opportunité avec justement le président de XRM Vision, avec qui on partage les bureaux, de participé à 3 conférences qui étaient données par l'auteur du livre. Et c'était extrêmement intéressant parce que Kiwiz, on est plutôt une jeune pousse. Et de l'autre côté, on avait un chef d'entreprise, une entreprise qui fait qui a un chiffre d'affaires annuel en dizaines de millions. Et ce qui était fun, c'est qu'on arrivait à écouter des concepts, le même concept qui était donné.
Appliqué aux deux entreprises. Ouais.
Exactement. Et même à le comprendre parfois différemment, on se challengeait, on ne l'avait pas compris de la même façon parce que les défis d'aujourd'hui n'étaient pas les mêmes. Donc, c'est un très bon livre que je recommande.
Donc, Scaling Up de Vern Harnish. C'est noté pour nos auditeurs et auditrices. Et au niveau, tu parlais justement de podcast, livre audio, c'est quoi celui que tu vas recommander à tes auditeurs?
Alors, podcast, j'irai beaucoup sur l'actualité. J'adore aujourd'hui la possibilité d'avoir des podcasts qui vont durer 5 minutes pour présenter l'actualité. Quand j'étais plus jeune, le journal de 20h, c'était un rituel à la maison. On mangeait devant le journal de 20h. Ouais. Donc aujourd'hui, j'ai plus la télé avec le câble. J'ai perdu cette habitude. Donc j'écoute tout type d'actualité, ça peut être le matin RTL, ça peut être fin de journée, je vais écouter Hugo Décrypte, le récapitulatif, j'aime beaucoup Info Bref aussi, pour le Canada et le Québec. Et sinon, j'en ai mis un qui est passionnant et qui n'est pas forcément trop en lien avec ma phase B, bien que le nom laisse à penser, c'est CDG, qui est Car Dealership Guy.
Ok.
Et qui est en fait une personne de l'industrie automobile qui s'est présentée, qui ne se présente pas, qui est anonyme et qui va faire, qui va avoir une approche pro-consommateur, alors que c'est un professionnel de l'industrie. Donc c'est déjà c'est une approche assez différente. Finalement, le média a très bien fonctionné au cours des 2 dernières années. C'est monté en puissance. Ouais. Il y a eu des interviews absolument passionnante, qu'on soit dans l'industrie ou pas. Semaine passée, j'en ai terminé un podcast, c'était sur le plus gros concessionnaire Toyota au monde, qui se trouve aux États-Unis, et qui a des volumes de vente qui sont tels qu'en fait, c'est une petite ville. On arrive à même avoir un Starbucks dans le concessionnaire.
Excellent.
Donc, c'est passionnant parce que tu découvres une immense entreprise, comment ça fonctionne, comment ils ont réussi à aller là. Et je trouve qu'il y a tout un aspect aussi, pas juste d'écouter les podcasts, mais de comprendre l'approche marketing de la personne qui crée ce podcast, qui vient d'annoncer finalement son profil, de se présenter en public. Et ça, c'était au NADA Show, qui est à Las Vegas, qui est l'une des plus grosses conférences qui s'est terminée dimanche dernier dans le secteur de l'industrie automobile. Grosso modo, le NADA, c'était qui est CDG. Donc, tout était autour de lui. Forcément, il y a eu de belles innovations et autres, mais finalement, c'est une personne comme tout le monde. Mais l'approche marketing qu'il a eue et comment il a fait de cette révélation au salon un événement à part entière, où tout le monde veut aller finalement se pluguer sur cette révélation pour avoir un peu d'exposition médiatique, je trouve ça vraiment intéressant, surtout pour un secteur automobile où parfois on nous reproche d'être un peu traditionnel.
Ouais, exact. Non, très beaucoup marketing, bravo. Il a quoi comme prénom et nom, ce CDG?
Il s'appelle Yossi, son prénom, et j'ai oublié son nom de famille.
Okay.
Ce qui est fun, parce que ça m'a posé des questions après, là, ça part loin, mais c'est une personne qui a choisi un avatar d'un homme blanc. Je dirais le profil typique du vendeur automobile, et la personne en réel n'est pas ce profil, ne lui ressemble même pas physiquement. Et je trouve que c'est génial parce que ça démontre que peut-être il n'aurait pas eu autant de succès, on part loin, mais le fait d'avoir mis vraiment le stéréotype, passionnant, je trouve.
Ça ouvre beaucoup de sujets, effectivement. Ok, bah écoute, on ira jeter une oreille et puis regarder un peu effectivement sa présence au NADA, qui, comme tu l'as dit, s'est terminée il n'y a pas longtemps, pour voir quelle a été cette action marketing qui peut inspirer, je pense, beaucoup, même effectivement en dehors de l'industrie automobile. On va maintenant basculer. Alors, tu aimes les voyages, l'immobilier aussi. Je pense que tu vas nous parler un peu sur ta to-do list de choses à faire de ce côté-là, puis les voitures, bien évidemment. Et je pense que tu voulais nous parler d'un voyage mémorable que tu as pu faire, qui était au Japon, c'est ça?
Exact. Il y a quelques années, au cours de mes études, j'ai eu l'opportunité de partir en échange universitaire. et je suis parti à Singapour. Mon frère habite depuis une dizaine d'années en Asie. Aujourd'hui, il est présent en Indonésie, à Bali. Et ce n'est pas forcément un endroit du monde qui me donne envie d'aller y vivre, mais j'étais très curieux de comprendre. J'ai profité de cet échange pour voyager un maximum. J'ai fait un peu plus de 10 pays et j'ai pris une claque au Japon, mais vraiment énorme. Je revenais de 2 semaines en Inde, qui est l'un des pays les plus intenses que j'ai fait, qui est magnifique, mais qui est très très intense, culturellement, mais à tous les niveaux. J'ai presque le sentiment, et je le dis pas négativement, mais d'étouffer, parce que dans les conditions aussi, on le fait, auberge de jeunesse, étudiant, il y a un moment où tu es épuisé de la chose. Et d'arriver au Japon juste après ce voyage, je suis parti de New Delhi pour aller à Tokyo. Waouh! Alors là,
Choc des cultures, ouais.
choc total des cultures, prise de conscience de valeurs qui me sont importantes. Peut-être pas, valeur est peut-être pas le bon mot, mais de choses qu'on peut retrouver dans certaines cultures, dans certains pays, et particulièrement le civisme. Impressionnant, le respect des gens qui est peut-être poussé à outrance, où il faut chuchoter dans le train, on mange pas en marchant dans la rue, mais absolument incroyable, la culture incroyable. Au final, on a fait 2 semaines à Tokyo même, et j'ai très envie d'y
T'y
retourner parce
retourner.
qu'il y a encore beaucoup de choses à voir en dehors de Tokyo, mais déjà même encore à Tokyo.
Donc le Japon de nouveau sur ta to-do list pour les prochaines années. Donc ça on pourrait y revenir juste après au niveau effectivement des sujets que tu veux voir, mais bon le Japon tu veux y retourner, ça c'est sûr. On va aussi parler d'un moment de ta vie, tu voulais nous parler d'un moment marquant de ta vie qui je pense a influencé ta vie d'entrepreneur en l'occurrence, c'était en 2016, une rencontre que tu as faite, c'est ça, au club entrepreneurial du HEC Montréal.
Exact.
Ouais.
Je suis passionné par l'entrepreneuriat depuis un certain temps. C'est vraiment monté en puissance en 2013-2014 quand j'étais au lycée. Et j'avais l'envie de me lancer sans savoir ce que c'était de se lancer, où on pense que plus on prépare en avance, le mieux on va réussir, alors qu'en fait, je pense qu'au contraire, il faut se lancer. Et puis en 2016, j'arrive à Montréal, nouveau départ, avec toujours cette profonde envie de me lancer en affaires. Et en allant au Café Campus, ça m'a marqué. Il devait être 22 heures. Je marche dans la rue, dans une direction, et je rencontre Ilan Sayang, qui était à la YEP entrepreneuriale, donc le club, l'association entrepreneuriale du HEC Montréal, et qui me dit, habillé comme t'es, oh, c'est sûr, t'es français. Donc, le mardi soir, tu vas au Café Campus, parce que c'était les années rétro musique française. Et il me dit, et puis c'est dans l'autre direction. Et de là, on discute sur le chemin. Et très vite, il me dit, mais si t'es passionné par l'entrepreneuriat, c'est en ce moment que tu dois postuler pour rentrer en tant que chargé de projet pour organiser comme un, je crois que c'était un startup week-end. Je l'ai fait. C'était en 2016. Je n'ai jamais quitté cette association jusqu'à la fin de mes études. Les personnes que tu rencontres, que ce soit au sein de l'association, à l'extérieur, par exemple le Startup Weekend, je me souviens que c'était dans les bureaux de Potluck, à une époque où ils étaient bien moins avancés,
Au début, ouais.
donc l'occasion de rencontrer Rodolphe, et ça a fait effet boule de neige, et c'était absolument passionnant de comprendre, d'apprendre, mais aussi de rencontrer, de voir des personnes plus avancées. Et je pense qu'en 2016, il y avait le plus bel exécutif à la YEP qui était tout simplement impressionnant. Loïc Souêtre, qui est parti faire carrière dans les fonds d'investissement, mais qui déjà à cette époque-là avait une très belle vision, je pense, des startups. Victor Gardrinier, qui est passé chez Y Combinator avec SolarMonte, sa startup, qui a un succès absolu en Espagne. Et c'était des personnes qui, avant même, je trouve, d'avoir ce succès, avaient une vision où, quand ils présentaient leurs rêves, ça donnait envie de rigoler, mais eux se prenaient au sérieux, et c'est inspirant, donc c'était une bonne rencontre.
Et donc c'est ça qui t'a lancé après sur l'entrepreneuriat, sur Kiwiz, sur ces sujets-là. C'est venu suite à ça? Tu penses que ça a été le déclencheur?
Alors, il y a eu deux étapes. La première étape, je pense, c'était, j'avais 18 ans, c'était déjà de prendre confiance en soi. Je me souviens de l'entrevue quand j'ai rejoint l'association. J'étais paniqué, je n'ai même pas compris les termes de certaines questions.
Oui.
Et j'ai fini par me lever à la fin et dire, écoutez, je ne pense pas que ce soit une très belle entrevue qui vient de se dérouler, mais plus motivé que moi, il n'y en a pas et j'ai le goût d'apprendre. Donc d'abord, il y a une phase d'apprentissage, de comprendre c'est quoi l'entrepreneuriat. On le présente souvent comme la liberté, tu fais ce que tu veux, c'est pas du tout ça. Donc déjà, comprendre ce domaine, parler avec des personnes, voir les avancées, les échecs. Et puis après, la deuxième étape, effectivement, ça a été de se lancer, de commencer et de comprendre.
Super. Bah justement, donc Kiwiz, c'est venu plus tard, comme tu l'as dit, mais c'est sûr que ça fait partie de ta to-do list. Si on regarde les prochaines années, il y a scaler ta face A, donc Kiwiz. Qu'est-ce qu'on voit d'autre par rapport à... On t'a parlé du Japon, retourner au Japon. Je pense qu'il y a aussi un sujet immobilier, puis construire aussi un véhicule, si je me rappelle bien.
C'est ça, puis je pense qu'on peut aborder les deux en même temps, côté ouais. Rénovation, donc par exemple refaire une cuisine ou autre, et l'autre côté construire une moto.
Ouais.
C'est l'envie de comprendre comment fonctionnent les choses, l'envie aussi de savoir utiliser ses mains. Je suis pas manuel de base. J'ai donné l'exemple de la cuisine que j'ai refait récemment. On se dit c'est très compliqué, puis finalement, comme tout, on commence à aborder chacun des points, comment on le fait. Il y a quand même des limites. C'était il y a 3 mois que j'ai rénové ma cuisine et j'ai pas terminé de faire la plomberie. Donc, j'ai encore une petite casserole dessous parce qu'il y a de l'eau qui goûte encore parce que mon U est pas au bon endroit. Mais c'est cette envie de comprendre les différents d'autres métiers aussi. Et puis de comprendre comment ça fonctionne. C'est facile d'allumer. Tu sais, aujourd'hui, on est tous sur les téléphones, on l'allume, ça fonctionne, on va sur Internet. Mais il y a des métiers aussi comme rénover une cuisine, la plomberie, l'électricité, ou côté plus mécanique, c'est comprendre comment ça fonctionne. Donc ça, oui, c'est des projets.
Ça t'a doublé, ça. Ok, puis ça compensera avec ta face A qui est plus l'ordre du service, même si tu as quand même une dimension des gens qui vont aller vérifier, inspecter les véhicules, mais toi, la plateforme que tu proposes est effectivement plus virtuelle et un service. Donc compenser ça avec une to-do list plutôt manuelle. Ok, super. On va finir, Edouard, avec une anecdote que pas ou peu de personnes connaissent sur toi. Je pense que, pareil, on va pouvoir la lier à ta face A d'une manière ou d'une autre.
Quand je suis arrivé en 2016, j'ai acheté un véhicule dans une petite concession à Montréal. Assez rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de frais associés au véhicule et j'ai dû le ramener à la concession avec l'idée de le revendre. Okay. Et finalement, en discutant un petit peu avec les personnes sur place, je suis reparti avec une job en tant que vendeur automobile. Donc, c'était vraiment une très belle expérience. J'ai travaillé quelques temps là-bas. Et ce qui est fun, c'est que tu es payé à la commission. Donc ça, je découvrais ça aussi. Si tu ne vends pas de voiture, finalement, tu gagnes très peu d'argent. Donc, dans le cadre d'une de mes premières ventes au Canada, on apprend à conduire sur automatique et on peut acheter une automatique comme une manuelle, ce qui est différent en France. Et on avait une voiture manuelle en stock, je crois, de mémoire. C'était une Audi A3 2010 noire. Ouais. Manuel, et donc le client qui était intéressé ne savait pas conduire manuel. Exactement, et bon à prendre. Et je pense qu'on a dû passer un bon, peut-être pas 30 minutes, mais un bon 15-20 minutes dans la rue. C'était à Montréal-Nord, à apprendre à conduire manuel. Je lui disais, mais c'est très bien, tu vas y arriver. Le point de patinage. Et puis, on a fait ça ensemble. C'était une belle anecdote.
Et la vente s'est faite.
Alors, de mon côté, je n'ai pas eu le mot final puisque à ce moment-là, j'étais uniquement vendeur. Donc oui, il y a une volonté d'acheter, mais après, il y a ce qu'on appelle la demande d'approbation de crédit. Et à ce moment-là, je ne gérais pas ces demandes. Donc, je ne sais pas si le client était approuvé. Ceci étant dit, il y a eu une volonté d'acheter suite à ça. Il y avait encore besoin d'apprendre.
Mais bon. Et toi, ta partie était faite. Donc toi, ta job était faite. Tu avais effectivement confirmé et convaincu le client que le manuel, c'est possible. Il est capable de le conduire et puis il est capable d'acheter ce véhicule. Donc, écoute, bravo. Et puis, merci beaucoup, Edouard, pour cette anecdote et ta phase B. Un plaisir de t'avoir sur ce podcast-là. Alors, merci, Edouard.
Merci à toi. Salut.
Et à tous nos auditeurs et auditrices, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode de Ta Face B et je vous souhaite une très bonne semaine d'ici là.